Nous terminons notre parcours de mini-retraite sur le thème de grandir dans la liberté à l'école de Thérèse. Dans un premier temps, nous nous sommes arrêtés sur ce qu'est la liberté intérieure avec l'exemple de Thérèse. Puis nous avons vu dans un deuxième temps ce qu'on appelle la libération intérieure, c'est-à-dire ce qui peut faire obstacle à l'exercice de cette liberté. Et je vous ai donné quelques exemples de la vie de Thérèse pour éclairer notre propre vie. Et nous nous arrêtons maintenant sur la liberté spirituelle proprement dite. Qu'est-ce qu'elle est et comment grandir dans cette liberté spirituelle? Dieu est liberté. Liberté souveraine, puisqu'il est amour. Et en nous créant à son image, il nous fait don de la liberté. Cette liberté spirituelle s'attache par amour à la volonté de Dieu. Dieu me donne une liberté pour vouloir ce qu'il veut, pour vouloir dans le même sens que ce qu'il veut. C'est la liberté des enfants de Dieu qui unissent leur volonté au désir de Dieu leur Père pour lui faire plaisir, pour lui témoigner notre amour. Et on se retrouve dans l'amour, dans le jeu suivant. Dieu se plaît à faire notre volonté et nous nous plaisons à faire sa volonté. C'est bien ce que l'on vit quand deux personnes s'aiment, faire la volonté de l'autre pour lui faire plaisir. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit saint Paul aux Romains. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, voilà la suprême liberté. C'est le but de la vie chrétienne. Arriver à penser, à parler, à agir en étant inspiré, mu, saisi par le Saint-Esprit. Saint Séraphim de Sarov parle d'acquisition du Saint-Esprit. Et c'est cette acquisition, c'est ce désir ardent d'être inspiré, mu, saisi par l'Esprit Saint qui habite le cœur de Thérèse. Comment Thérèse devient-elle de plus en plus libre en collaborant à la grâce et en accomplissant la volonté de Dieu? Bien, il faut nous poser simplement la question: qu'est-ce qui fait grandir ma liberté? Et la parole nous répond en Saint Jean, chapitre 8, verset 32, « La vérité vous rendra libre. » Donc la condition de la liberté, c'est la vérité. Qu'est-ce qui nourrit ma liberté? La vérité. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Et on comprend à ce moment-là cette caractéristique de Thérèse qui cherche la vérité avec autant d'ardeur que l'amour. Car la vérité garde. La vérité sert l'amour. La vérité donne la bonne direction à l'amour et évite l'illusion. Par exemple, Thérèse dit « La sainteté cachée, sans rien d'extraordinaire, me paraît la plus vraie. C'est elle que je désire, car il ne s'y rencontre aucune illusion. » Donc Thérèse fuit le faux-semblant, le mensonge, la feintise, et elle ne veut que la vérité. Donc, connaître ce qu'elle est, on en a parlé longuement, sa fragilité, sa pauvreté, et ce qu'est Dieu, sa bonté, sa puissance, sa sainteté, son humilité, le caractère du bon Dieu. Voilà ce qui est important pour Thérèse, se connaître et connaître Dieu. Voilà donc un premier moyen puissant pour grandir dans la liberté spirituelle, chercher la vérité. Un deuxième moyen spirituel, c'est l'union de notre volonté à celle de Dieu. Le principal obstacle à la liberté spirituelle, c'est la centration sur soi, l'égoïsme, l'orgueil, l'amour propre. Ce que l'on appelle aussi, qui est directement lié, la volonté propre. Donc Thérèse nous invite à chercher, à connaître et à accomplir la volonté de Dieu sur nos vies. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Tout d'abord, pour Thérèse, c'est l'écoute de sa parole. L'écoute de ses commandements. Faire plaisir au Seigneur, dit-elle, c'est accomplir ce qu'il nous demande. C'est pour cela qu'elle aime l'Évangile. C'est son livre préféré qu'elle garde avec elle, qu'elle relit chaque jour, qu'elle apprend, qu'elle savoure, qu'elle menduque. Elle dit même que, surtout à la fin de sa vie, c'est le seul livre qu'elle peut lire, les autres lui paraissant trop compliqués. Parce que c'est la parole de Jésus, c'est-à-dire la parole de vérité. Et c'est là qu'elle apprend à connaître celui qu'elle aime. Donc l'écoute de la parole, deuxième moyen pour connaître la volonté de Dieu, la prière. Demandons au Seigneur de nous montrer ce que nous devons faire et qu'il ne nous laisse surtout pas faire fausse route. Cela réclame donc de faire silence, d'écouter, d'être attentif, de veiller, de prier. Saint Séraphime de Sarov nous dit « La première pensée qui naît dans la prière profonde en notre âme, on la reçoit comme un signe venu d'en haut. » La première pensée qui vient dans ce silence et cette attention. Et Thérèse parle souvent de ces pensées profondes qui l'habitent, parfois dans l'oraison, mais aussi et surtout de ces lumières qu'elle reçoit au cours de sa journée, ou bien de ces lumières qu'elle découvre en ouvrant la parole, que ce soit l'Évangile, le livre d'Isaïe, ces lumières qu'elle reçoit sur la petite voie, sur sa vocation personnelle. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Donc ne négligeons pas, voyez, ces pensées profondes, ces idées, ces images, ces mouvements intérieurs qui nous viennent dans la prière ou fruit de la prière. Mais apportons-leur à ces mouvements intérieurs, à ces pensées, à ces images, un discernement. Car comment est-ce que je peux savoir que cela vient de Dieu? Et c'est le troisième moyen, l'accompagnement spirituel. Thérèse va toujours se confier en confession à un prêtre. Et elle vivra des temps forts en confession. Elle aura 9 confesseurs successifs, différent. Elle n'aura jamais véritablement de père spirituel. Mais deux confessions, en particulier avec le père Pichon et avec le père Alexis Proulx, vont marquer définitivement sa vie à travers ce qu'elle va confier et ce que le prêtre va lui dire. Donc ne restons pas seuls, ouvrons notre cœur à notre confesseur, à un accompagnateur spirituel pour discerner si ce que nous vivons vient bien de Dieu. Thérèse fera cela constamment. Quatrième petit moyen très simple pour connaître la volonté de Dieu, les événements, les rencontres qui viennent nous percuter, nous surprendre, parfois nous arrêter sur un chemin, au contraire nous inviter à aller plus loin. Dans ces rencontres, ce peut être la volonté d'autrui, ce peut être la rencontre avec un petit, un pauvre, qui nous éclaire. Le Seigneur nous éduque par les événements. Et il nous fait connaître sa volonté. Ce peut être, cinquièmement, ce que j'ai appelé le devoir d'État, c'est-à-dire nos obligations familiales, professionnelles, dans la société, dans l'Église. Ce qui me revient que je dois faire, vivre. Je peux donc ainsi connaître la volonté de Dieu. Et je vais orienter ma liberté qui me permet d'aimer, je vais orienter ma liberté dans le sens de la volonté de Dieu. Je vais donc développer ma volonté libre dans le sens de ce que Dieu veut. Or, à cette volonté libre s'oppose une volonté qu'on appelle la volonté propre. Et cette volonté propre, qui consiste à se fier à mes propres catégories mentales, à mon propre critère de jugement, m'amène, de fait, dans certaines situations, à m'opposer à la volonté de Dieu. Bien, Thérèse va faire la guerre à sa volonté propre. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté. Quand elle part de cela, ce n'est pas ce qui fait la volonté de Dieu. C'est cette volonté propre. Elle est propre, c'est-à-dire c'est ce que je veux moi tout seul. Alors qu'il s'agit de dire ce que je veux avec le Seigneur qui m'aime. Je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre, Seigneur. Donc très clairement, pour Thérèse, il s'agit de mortifier notre volonté propre. Et il s'agit de remettre toute ma vie et ma volonté au Seigneur. Elle avait confiance, Thérèse, que le Seigneur allait la guider vers l'accomplissement de sa vie et vers la sainteté. Ce qu'elle voulait, c'est, en accomplissant la volonté de Dieu, accomplir ses grands désirs qui l'habitent. Désir d'aimer jusqu'à l'infini, désir de se donner, désir de sainteté, désir de faire connaître le Seigneur et de le faire aimer. Et elle savait que par elle-même, elle ne pourrait pas l'atteindre. Mais si elle unit sa volonté à la volonté de Dieu, la grâce lui donnera d'y arriver. Donc, renoncer à diriger seul ma vie et laisser à Dieu le soin de me mener là où il veut, comme il veut, même là où je n'ai pas envie d'aller. Vous voyez, c'est un chemin qui peut être âpre. C'est un chemin qui passe par l'union à la vie de Jésus, avec tous ses aspects de joie, mais aussi de peine, de passion, de résurrection. Quand notre âme s'abandonne à la volonté de Dieu, le Seigneur lui-même commence à nous guider. Notre cœur, notre âme est alors directement instruite par Dieu. Et Thérèse dira, particulièrement à la fin de sa vie, que le Seigneur l'instruisait directement. Elle n'entendait pas de voix, mais par des mouvements intérieurs, par ses pensées profondes, elle savait de plus en plus, avec certitude, où était la volonté de Dieu. Elle accueillait tout ce qui lui arrivait comme étant dans la main de Dieu. Et elle insiste sur le fait que la pédagogie divine s'exerce particulièrement dans l'épreuve. Car l'épreuve, c'est le moment particulier où nous sommes éprouvés, c'est-à-dire où va apparaître la valeur profonde de l'orientation de notre cœur. L'épreuve, c'est le moment de la croix, c'est-à-dire le moment où le mal nous affronte. C'est le moment aussi où Dieu nous visite en nous donnant sa grâce et sa force pour vaincre ce mal. C'est donc le moment où nous sommes invités à nous laisser faire dans la main de Dieu. C'est le moment où nous sommes invités à unir notre volonté à celle de Jésus. Quand Jésus nous dit très clairement « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai », quand il nous dit « Mon joug est facile à porter », et mon fardeau léger. C'est d'abord parce qu'un joug se porte à deux. Le joug qui est posé sur la nuque des bœufs, il y a toujours deux bœufs, le joug soit le moins lourd possible. Mais celui qui porte le joug avec moi, c'est Jésus. J'apprends donc à marcher au même pas que lui, il est à côté de moi, il porte avec moi. Et c'est ce bois, c'est-à-dire le bois de la croix, c'est ce bois qui me porte. Et Jésus nous dit que c'est sa douceur et son humilité qui vont nous donner repos à notre âme. Mettez-vous à mon école. Thérèse va se mettre à l'école de Jésus, emboîter son pas dans le sien. C'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai point d'autre boussole. Je ne puis plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu sur mon âme, auquel est douce la voix de l'amour. Sans doute on peut bien tomber. On peut commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix du cœur. Donc la condition, vous voyez, profonde et essentielle de la liberté spirituelle, c'est de chercher sans cesse à unir notre volonté à la volonté de Jésus. De chercher sans cesse à connaître cette volonté. Seigneur, dis-moi ce que tu veux et donne-moi la force de m'unir à ta volonté et de l'accomplir. Cette union
à la volonté de Dieu s'exprime effectivement, particulièrement dans la vie de Thérèse, sous une modalité particulière dont elle nous parle beaucoup et qu'il faut bien comprendre. Lors de sa deuxième communion, Thérèse vit un tournant capital, elle dit « une des grâces les plus grandes de sa vie ». Personnellement, j'ai mis longtemps à saisir ce qu'elle voulait dire. Le lendemain, après ma communion, je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance. Jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. De fait, je crois, ce n'est pas le désir de souffrir en tant que tel qui a attiré Thérèse, mais le désir d'aimer. Et l'expérience nous montre bien que l'amour resplendit quand j'aime alors que je n'ai pas envie de faire ceci ou cela. L'amour resplendit quand je vais passer ma volonté derrière celle de l'autre, c'est-à-dire de celui que j'aime, pour lui faire plaisir, même si ça me cause un déplaisir. Nous savons tous que cet amour désintéressé est le véritable amour, même si nous avons du mal à le vivre. Mais cet amour-là, cet amour désintéressé, c'est une grâce. Et cette grâce nous est particulièrement donnée quand nous restons unis à Jésus dans l'épreuve. Je pense que c'est cela le grand message de Thérèse. Elle ne voulait aucunement souffrir pour souffrir. Jamais Jésus ne nous a dit « souffrez et faites-vous souffrir les uns les autres ». Il nous dit « aimez-vous les uns les autres jusqu'au plus grand amour, donner sa vie pour ses amis ». Mais donner sa vie pour ses amis, c'est souffrir. Ou plus exactement, donner sa vie pour ses amis, c'est aimer malgré la souffrance. Le lieu par excellence où l'amour se prouve en se donnant, sans retour sur soi, c'est-à-dire en s'oubliant. Il est évident que pour nous c'est difficile, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est la grâce qui va nous apprendre à aimer de cette façon-là, jusqu'à connaître la joie, parce que j'aime, même si ça me coûte. Mais parce que je suis heureux de faire plaisir à celui que j'aime. Donc cette manière d'aimer, dans et malgré la souffrance, nécessite renoncement, oubli de soi, don de soi. Elle le dira très clairement, nous devons aller au ciel par la voie de la souffrance unie à l'amour. Mais il faut bien comprendre aussi que dans cette expérience, il y a une vocation personnelle de Thérèse. Dans la petite voie, et Thérèse le dit très précisément, il ne s'agit pas de plus souffrir. Si vous entrez dans la petite voie, si vous suivez Thérèse, vous ne souffrirez pas plus. Thérèse a un appel particulier qui lui est propre à traverser les douleurs d'un enfantement spirituel, car elle est mère. Elle est mère d'une multitude de petites âmes. Elle est le chef de file. Et c'est pour ça que vous venez nombreux, pour écouter son enseignement. Eh bien, l'amour grandit dans l'oblation. Si notre chef de file, Jésus, a beaucoup souffert, bien Thérèse a posé ses pas dans les siens et on peut à ce moment-là penser qu'elle a reçu une grâce particulière qui est d'aimer la souffrance. Mais c'est une grâce qui n'est pas la nôtre. Moi, je n'aime pas la souffrance. Je désire aimer, j'aime aimer, et je veux bien aimer quand je souffre, mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à aimer la souffrance. Vous savez peut-être que Thérèse est apparue à Marthe Robin, une mystique catholique française, la fondatrice des foyers de charité, pour lui demander de continuer sa mission. Et il faudra beaucoup de temps et beaucoup de tâtonnements à Thérèse pour préciser cette délicate articulation entre la souffrance et l'amour. Elle dit « Depuis ma première communion, j'avais un perpétuel désir de souffrir. » J'espère que vous l'avez compris ce que cela signifie. « Je ne pensais pas cependant en faire ma joie. Je ne suis plus en effet, comme dans mon enfance, accessible à toute douleur. » Je suis comme ressuscité. Je ne suis plus au lieu où l'on me croit, j'en suis venu à ne plus pouvoir souffrir, parce que toute souffrance m'est douce. Vous voyez, Thérèse l'a accompli la promesse de Jésus. Si tu acceptes de porter le joug de ta vie avec moi, nous dit Jésus, tu goûteras en te mettant à mon école, à ma douceur, à mon humilité, c'est-à-dire tu connaîtras le repos. Une souffrance paisible n'est plus une souffrance. C'est ce que produit cette union de volonté avec Jésus dans l'épreuve, c'est-à-dire malgré et par la souffrance. Il faut remarquer aussi que l'obtention de cette liberté spirituelle passe par le renoncement. Thérèse va nous en donner de multiples exemples, particulièrement au niveau de la liberté affective. Thérèse était très bien placée pour s'attacher affectivement et donc pour ne pas mettre tout son cœur, tout son amour en Dieu. Par exemple, avec sa prieure, Mère Marie de Gonzague, et donc une expression, un visage maternel pour elle, elle qui a manqué de maman. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour me satisfaire, écrit-elle à Mère Marie de Gonzague, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligée de passer rapidement, de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, je trouvais mille raisons pour contenter ma nature. Voilà donc un travail d'ascèse, un effort auquel Thérèse nous invite pour accéder à la liberté intérieure. Refuser de contenter ma nature dans des affections qui prendraient la place de l'amour de Dieu. La mortification, comme elle dit, c'est-à-dire renoncer au plaisir attendu d'une satisfaction, produit la maîtrise. Et la maîtrise de soi est l'expression de la liberté qui nous permet d'aimer, d'une manière désintéressée. Avec ses sœurs, on peut comprendre que pour Thérèse, ça va être un combat quotidien et une vigilance de tous les instants. Par exemple, en février 1893, Thérèse a 20 ans, sa sœur, Agnès de Jésus, donc sa petite mère, est nommée prieure. Les mères Agnès témoignent, « C'est Thérèse que je vis le moins de toutes les sœurs pendant mon priorat. » Alors que Thérèse avait le droit de la voir tous les 8 jours. Et son autre sœur, Geneviève, précise, elle me parlait à moi, comme à sa novice. Elle en avait la permission et le devoir, mais je me suis aperçu qu'elle se privait de s'épancher avec moi pour ce qui la regardait personnellement. Si elle agissait avec cet esprit de mortification envers moi, moi, la petite compagne de son enfance, je sais qu'elle le pratiqua encore avec plus de rigueur envers Mère Agnès de Jésus. Vous voyez, là, à l'évidence, Thérèse nous précède, nous dépasse, dans son application à se priver de petites satisfactions personnelles, la volonté propre, pour essayer d'accéder à une liberté intérieure. Autre exemple, après l'élection de Mère Marie de Gonzague en 1896, donc 3 ans plus tard encore, notre Mère Marie de Gonzague avait permis à Mère Agnès de Jésus d'aller parler à Thérèse quelques fois. C'était pour Thérèse l'occasion d'un bien grand sacrifice, car elle, de son côté, n'ayant pas reçu la permission de lui révéler ses pensées intimes, se bornait simplement à entendre les confidences de celle qu'elle appelait sa petite mère, sans lui faire les siennes. Quand on sait la souffrance que Thérèse vivait quand elle était petite au moment des parloirs, où ses sœurs parlaient entre elles et qu'elle ne pouvait pas parler avec Pauline, au Carmel, 10 ans plus tard, elle est capable d'écouter les confidences de sa petite mère, donc de Pauline, mère Agnès, et de ne pas lui faire les siennes, par choix volontaire, par obéissance, pour accomplir la volonté de Dieu, puisqu'elle n'en avait pas la permission. Cependant, poursuit sa sœur, elle n'aurait eu qu'un mot à dire pour en obtenir adroitement la permission. Pas de feintise, pas de faire semblant, pas de entre les deux. Oui. Thérèse ne veut que la vérité. Et avec ses novices, elle va combattre la tâche affective normale, mais excessive, d'une attente d'un amour en retour de leur part. Elle préfère dire la vérité quitte à déplaire plutôt que d'être arrangeante. Nous connaissons ça, nous, parents, que certaines fois, il faut être ferme, quitte à ce que notre enfant soit mécontent et nous dise « t'es un vilain papa », plutôt que d'être arrangeant pour être aimé. L'amour est gratuit. Et donc, dit Sœur Geneviève, elle était ferme, peut-être trop, dit-elle, avec ses novices, et après une correction, elle ne voulait pas se laisser attendrir et résister au tourment d'avoir fait de la peine, dit Thérèse, de voir souffrir et pleurer ses novices. Donc, vous voyez ce combat affectif tout au long de sa vie au Carmel qui va entraîner une véritable libération affective après l'offrande à l'amour miséricordieux du 9 juin 1895. Thérèse va dire à partir de 1996, donc l'avant-dernière année de sa vie, « Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur. Je vois avec bonheur qu'en aimant Jésus, le cœur s'agrandit. Qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. » C'est pour nous plein d'espérance. Je sens bien que je n'ai rien à craindre maintenant de l'amour et de la confiance que les autres lui témoignent. Au contraire, je puis en jouir, rapportant au bon Dieu ce qu'il a bien voulu mettre de bon en moi. Maintenant, je puis le dire, Jésus m'a fait la grâce de n'être pas plus attaché au bien de l'esprit et du cœur qu'à ceux de la terre. Que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Vous voyez comme c'est frappant ce petit adverbe « maintenant ». On est en 1896. Je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Si dans mon enfant j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. Au temps de mon noviciat, je me faisais des peines pour si peu de choses que j'en ris maintenant. Mais maintenant, je ne m'étonne plus de rien. voyez, au travers de ces belles confidences, Thérèse nous dit et nous invite à persévérer. À persévérer dans cette recherche de la volonté de Dieu, pour grandir en liberté, parce que Dieu est la liberté de l'homme. En m'attachant à ce qu'il veut, en cherchant à connaître sa volonté, et en mettant mes pas dans les siens, c'est-à-dire dans les pas de Jésus, par amour, pour lui faire plaisir. En acceptant de mortifier ma volonté propre, mes désirs propres, pour m'attacher à la volonté de Dieu, je vais rentrer dans une liberté croissante. Et un jour, nous pourrons dire avec Thérèse, « Maintenant, je n'ai plus rien à craindre de mes propres mouvements naturels, parce que la grâce a pris le dessus. » Voilà, je vous invite ce soir à vous rendre à la veillée maintenant et à garder dans votre cœur cette interpellation de Thérèse. Comment puis-je mieux unir ma volonté à la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux maintenant mettre mes pas dans les pas de Jésus pour accomplir ce qui lui fait plaisir et ainsi grandir en liberté ?